de l'étude de 2 Corinthiens. C'était une exhortation à nous examiner nous-mêmes. Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi, 2 Corinthiens 13, 5. Ce matin, j'aimerais vous poser la question. Est-ce que vous êtes vraiment satisfait de votre vie chrétienne? Je vous demanderai pas de répondre, mais plutôt de réfléchir en vous-même. Est-ce que il n'y a pas un désir d'aller beaucoup plus loin? Est-ce que vous avez l'impression de vivre à ce niveau-là? Certes, c'est mieux que par terre, peut-être. Mais quelque part en vous, il y a conviction que rien ne vous empêcherait de vivre à ce niveau-là. Comment faire? Comment commencer? Nous avons des leçons à retirer de ce vieux livre de Josué. Encore une fois, il y a une merveilleuse unité dans l'Ancien dans la Bible entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et au lieu de considérer l'Ancien Testament comme un recueil de vieilles histoires plus ou moins historiques, il importe de réaliser qu'en fait la façon dont Dieu a agi avec le peuple d'Israël, c'est une illustration. En termes théologiques, on dit un type.
In theological terms, we would say a type.
De la façon dont Dieu agit avec vous et moi.
For the way that God works with you and me.
Et c'est vrai qu'on peut apprendre beaucoup de choses en lisant les épîtres.
And it's true, we can learn a lot of things as we read the epistles.
Du Nouveau Testament. Mais l'Ancien Testament, avec ses histoires que nous pouvons visualiser plus facilement, a une grande puissance d'impact. Et vous souvenez que le Seigneur avait donné à Josué et au peuple d'Israël tout lieu que foulerait la plante de son pied.
Remember that God gave to Joshua and the Israelites all land on which their feet touched.
Nous avions vu qu'en fait ils avaient un territoire immense que Dieu leur donnait.
We saw that they had a huge territory that God had given to them.
Mais l'histoire nous montre qu'ils en ont jamais possédé que le dixième. Et quelque part, c'est pareil avec nous.
Way,
Dieu va nous donner tout le territoire que nous lui réclamons. Mais pas, il ne va pas nous donner un centimètre carré de plus que ce que nous voulons. Et si nous nous contentons de cette vie peut-être chrétienne, mais un peu fade, un peu terne, un peu médiocre,
kind of mediocre, somewhat boring Christian life,
C'est tout ce que nous aurons. Par contre, si nous avons cette soif d'aller plus loin, alors ce livre veut nous dire que nous pouvons être assurés que Dieu va nous donner davantage. Et dans ce livre de Josué, on devrait être, au fur et à mesure qu'on va étudier, on va voir le secret de ce qui manque à notre expérience chrétienne, peut-être. Souvenez, nous avons rappelé que Dieu avait dit à Josué, qui succédait à Moïse, de se fortifier, de prendre courage. Il y avait ce verset bien connu qui donnait un peu le secret. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche, tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu mèneras bien tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Josué 1:8. Un des secrets, c'est d'être dans la parole de Dieu. La question que je vais vous poser, c'est que je me pose, c'est est-ce que je suis vraiment dans la parole de Dieu? Ou est-ce que je me contente de quelques lectures par-ci, par-là? Est-ce que quelqu'un a lu Josué 3 avant de venir ce matin? Rain. Bravo, Rain. C'est pas difficile en général de savoir quel est le texte que nous allons étudier la semaine d'après. Et pourquoi est-ce que vous ne le liriez pas à l'avance? En recevant vos premières impressions par le Saint-Esprit. Et peut-être aussi en vous posant des questions. Je crois que je dois vous encourager davantage à être dans la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes dans un programme, est-ce que vous avez un programme de lecture ou est-ce que vous lisez un petit bout comme ça, au hasard, le matin? Peu importe si vous lisez un seul verset sur lequel vous passez 15 minutes ou deux chapitres. Mais est-ce que vous donnez une chance à la Bible de vous transformer? Nous avons des petits programmes de lecture de la Bible en un an à l'arrière. C'est pas grave si vous faites deux fois moins vite et que vous lisez seulement la Bible en deux ans. Mais la parole de Dieu est pour vous directement. Assez parlé de lecture, lisons ensemble Josué 3. Josué se leva de bon matin, partit de Shittim, ils arrivèrent au Jourdain, lui et tous les Israélites, et là ils passèrent la nuit avant la traversée. Au bout de trois jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Au moment où vous verrez l'arche de l'Alliance de l'Éternel, votre Dieu, avec les sacrificateurs lévites qui la portent, vous partirez du lieu où vous êtes et vous marcherez à sa suite. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Ainsi vous connaîtrez le chemin par lequel vous irez, car vous n'êtes jamais passé par ce chemin auparavant. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel accomplira des prodiges au milieu de vous. Josué dit au sacrificateur, portez l'arche de l'Alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'Alliance et marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui je commence à te rendre grand aux yeux de tout Israël afin qu'ils sachent que je suis avec toi, comme je l'ai été avec Moïse. Et toi donne cet ordre au sacrificateur qui porte l'arche de l'Alliance. Vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, et alors vous vous tiendrez dans le Jourdain. Josué dit aux Israélites, approchez ici et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. Josué dit, à ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous, et qu'il dépossédera vraiment devant vous les Cananéens, les Hittites, les Phérésiens, les Girgasiens, les Amoréens et les Yébousiens. Voici que l'arche de l'Alliance du Seigneur de toute la terre traverse le Jourdain devant vous. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, 1 homme par tribu. Dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui viennent d'amont, et elles s'arrêteront en une seule masse. Lorsque le peuple sortit de ses tentes pour traverser le Jourdain, les sacrificateurs porteurs de l'arche de l'Alliance marchèrent devant le peuple. Et lorsque les porteurs de l'arche arrivèrent au Jourdain, et que les pieds des sacrificateurs, qui portaient l'arche baignèrent au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses berges tout le temps de la moisson, les eaux qui viennent d'amont s'arrêtèrent et s'élevèrent en une seule masse, à une très grande distance d'Adam, la ville qui est à côté de Tsartan, et celle qui descend vers la mer de la Araba, la mer Salée, furent complètement coupées. Le peuple traversa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel se tinrent au sec, de pied ferme, au milieu du Jourdain, et tout Israël passait à sec jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de traverser le Jourdain. Le peuple d'Israël entre enfin en terre promise. Vous vous souvenez qu'ils avaient été libérés de l'esclavage d'Égypte par Moïse. C'est bien sûr Dieu qui les avait libérés en utilisant Moïse. Et en fait, il devait les emmener dans ce pays découlant de lait et de miel, cette terre promise. Et ça aurait dû leur prendre une 40aine de jours. La distance peut être parcourue en 11 jours, mais on pense qu'en 40 jours, après la traversée de la mer Rouge, ils auraient dû entrer en terre promise. Mais au lieu de cela, ils ont tourné en rond dans le désert pendant 40 ans. La Bible nous explique clairement que c'était leur incrédulité, leur manque de foi dans les promesses de Dieu qui ont fait qu'ils ne sont pas et n'ont pas pu entrer en terre promise. Et Dieu avait dit, puisqu'ils n'ont pas foi en mes promesses, aucun d'entre eux n'entrerait en cette terre promise. Sauf de Josué et Caleb. Même Moïse n'a pas été gardé pour entrer en terre promise. Pour avoir mal représenté le Seigneur Tout-Puissant. Et donc c'est la seconde génération qui va entrer en terre promise. Quelqu'un a même comparé la marche dans le désert à une procession funéraire. Il fallait attendre qu'ils soient tous morts. Et là, nous voyons qu'ils franchissent enfin cette frontière naturelle que représentait le Jourdain pour entrer dans cette terre promise. Encore une fois, ce serait intéressant d'un point de vue historique. C'est beaucoup plus intéressant lorsqu'on voit à quoi ça correspond dans ma vie, dans vos vies aujourd'hui. Tous ces événements illustrent des événements de notre vie de chrétien. Et lorsqu'on a cette optique, la lecture de l'Ancien Testament devient fascinante. Vous-même, vous pouvez avoir faire des découvertes que personne d'autre n'a peut-être jamais faites avant vous. En réalisant que telle situation, en fait, vous l'avez connue ou vous l'avez affrontée. Et nous avons déjà dit qu'en fait, la vie d'esclave en Égypte ça représente notre vie d'homme non sauvé. Esclave du péché. Le passage de la mer Rouge, c'est une illustration de cette nouvelle naissance. Nous mourons à notre vieille nature. Nous ressuscitons à notre nouvelle nature. C'est aussi ce que symbolise le sacrement ou la cérémonie du baptême. Sacrement, c'est le terme catholique que je ne veux pas utiliser. Mais ces deux choses, le baptême nous rappelle que nous sommes, c'est une déclaration publique d'une réalité intérieure, que nous avons une nouvelle vie en Christ. Une fois que nous sommes chrétiens, Dieu nous appelle à une vie victorieuse, à une vie selon l'Esprit. Nous pouvons nous contenter de tourner en rond, d'avoir une vie médiocre où nous ne voyons pas la puissance de Dieu à l'œuvre. Certes, nous sommes sauvés,
for sure we are saved.
Mais notre vie ne compte pas beaucoup pour le royaume de Dieu.
But our life doesn't count much for God's kingdom.
Et nous arrivons à ce passage du Jourdain.
And now we come to the passing through the Jordan River.
Et un auteur faisait remarquer qu'en fait, le passage du Jourdain demandait plus de foi que la traversée de la mer Rouge. Parce que pour la mer Rouge, le peuple d'Israël était certes coincé, mais Dieu a fait souffler un vent et un passage s'est ouvert dans la mer Rouge. Donc ils ont pu voir avec leurs yeux qu'il y avait un chemin. C'est vrai qu'il fallait peut-être un peu du courage pour s'engager alors que les eaux menaçaient de revenir. Mais pour les Juifs qui allaient traverser le Jourdain, c'était encore plus difficile à croire. Surtout pour les prêtres. On comprend d'après le texte que c'était la saison de la moisson. C'est-à-dire la moisson de l'orge et du lin. Et donc c'était probablement l'équivalent du mois d'avril. la saison des crues du Jourdain.
And it was also the time of the overflow of the Jordan River.
Le Jourdain, je ne l'ai jamais vu personnellement, j'ai vu des photos, ce n'est pas une rivière très impressionnante.
Pierre n'a jamais vu le Jourdain personnellement, mais il a vu des photos, ce n'est pas une rivière très impressionnante.
Je crois qu'elle fait 50 à 100 mètres de large, suivant les endroits. Des fois même plus étroit. Mais à l'époque de la fonte des neiges, des monts du Liban, et avec la saison des pluies, du printemps, les eaux débordent, il y a des crues, et le nom Jourdain, ça veut dire celui qui descend. Donc il y a des endroits où il y a un courant très fort. Et donc on demandait à ces Israélites de marcher dans la rivière alors que la rivière était un torrent incontrôlable. Il faut se souvenir aussi que d'après le livre des Nombres du Deutéronome, on évalue la population entre 2 et 3 millions de personnes. Et là aussi, il y a, le Seigneur vous appelle à utiliser votre intelligence, votre imagination. Vous pouvez vous poser des questions. Combien de temps est-ce que ça prend pour faire passer 2 ou 3 millions de personnes à travers une petite rivière ? Si on pense qu'on peut mettre deux personnes en ligne, en file indienne, sur un mètre, il nous faudrait 1500 km de ligne. Si on pense que les gens marchent à 5 km à l'heure, ça fait 300 heures. Plus de 10 jours.
More than 10 days.
Mais peut-être qu'il y avait plusieurs colonnes.
Maybe there were several columns.
Mais toujours est-il qu'il fallait du temps et de la foi pour s'engager alors que le torrent coulait.
But at any rate, there had to be faith and courage to step in to begin this process with a raging river.
Et je vous encourage à faire ce genre de réflexion. Mais attends, combien ils étaient, combien de temps ça pouvait mettre? C'est parce que le texte est la vérité, donc il n'y a pas à avoir peur de trouver des choses incompatibles. Il est dit qu'au bout de 3 jours, les officiers donnent l'ordre au peuple de traverser, de suivre l'alliance. L'arche de l'Alliance.
The Ark of the Covenant.
Vous vous souvenez de ce petit coffret dans lequel les tables de la loi étaient conservées.
In which the tables of the law were conserved.
On sait qu'il y avait aussi le bâton d'Aaron qui avait fleuri.
And there was also Aaron's staff that had budded or flowered.
Et de la manna. La manne, la nourriture providentielle que Dieu avait donnée aux Israélites dans le désert. Ce coffre qui n'était pas très grand, qui faisait probablement un cube de 50 à 60 cm d'arête. Là aussi, vous pouvez vous dire quelle était la, puisqu'il y avait le bâton d'Aaron dedans.
You might ask yourself the question because there was Aaron's staff inside it.
Si Aaron faisait 1m50, qu'il avait un bâton d'1m20, quelle devait être la taille pour qu'on puisse mettre le bâton dedans?
If Aaron was about 1m50 and his staff was 1m20,
et voir que tout se tient. Bien sûr, au-dessus de l'arche de l'alliance, de cette arche, il y avait un couvercle surmonté de deux anges. Et lorsqu'ils étaient dans la traversée du désert et que ce centre était dans le Saint des Saints, c'est sur cette arche de l'alliance qu'une fois l'an, le grand prêtre sacrifiait un animal pour lui et un animal pour le peuple. Et cette arche de l'alliance était recouverte de la gloire de Dieu. Cette arche de l'alliance était un symbole de la présence de Dieu parmi le peuple d'Israël. Dieu était avec eux par cette arche. Dieu avec nous, c'est Emmanuel, c'est Jésus. Jésus est typifié et est illustré donc par cette arche. Le peuple devait fixer ses yeux sur l'arche, pas sur l'eau qui grondait. Nous-mêmes, nous sommes appelés à fixer nos yeux sur Jésus, lui qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Et nous avons un bon exemple de ce qui se passe lorsqu'on cesse de regarder à Dieu, à Jésus. Vous vous souvenez lorsque Pierre voyait Jésus qui était sur les eaux, sur le lac de Tibériade. Sa première mouvement impulsif, ça a été d'aller vers lui, de marcher sur l'eau. Mais dès qu'il a regardé aux vagues, à ce moment-là, il s'est mis à couler, à sombrer. De la même façon pour nous, si nous regardons à Jésus, si nous sentons qu'il nous appelle dans une direction, fixons nos yeux sur lui. Pas sur les obstacles. Ça, c'était le problème des 10 espions qui avaient fixé leurs yeux sur tous les problèmes qui se présentaient à eux pour entrer en terre promise. Vous notez qu'il est dit qu'ils devaient laisser 2000 coudées, c'est-à-dire à peu près 800 mètres. Pourquoi cette distance? Bien sûr, il y a d'abord la nécessité de montrer un profond respect pour Dieu. Et aussi pour que, si tout le monde avait été dessus, ceux plus loin derrière n'auraient pas pu voir. Mais là, ils pouvaient le voir tous ensemble à une certaine distance. Ce respect est illustré lorsque le roi David fait rentrer l'arche de l'alliance et que Uzziah le touche au lieu de le porter selon la façon prescrite sur des barres portées par des prêtres.
Who touched the ark instead of leaving it on the poles that normally carried it.
Et ça nous rappelle encore une fois, et ce serviteur était foudroyé par Dieu pour avoir fait cette chose profane, impure.
And this servant was struck by lightning by God for having profaned the ark.
C'est quelque chose que nous avons perdu, le sens de Dieu, le sens du respect que nous devons à Dieu. Je vous invite par exemple peut-être à prendre un temps de recueillement le dimanche matin, venir un peu à l'avance et lire la parole ou prier. Montrer du respect à Dieu.
And show respect toward God.
C'est vrai qu'on insiste beaucoup sur l'amour de Dieu. Jésus est notre frère, il est notre ami. Et devant lui. Il est bon de suivre Jésus de près. Pas être trop loin derrière lui. C'était le problème de Pierre le soir où Jésus avait été arrêté. Il le suivait, il est dit, mais à distance. Une autre application, je crois très importante, c'est que si on laisse Dieu devant, Jésus devant, on lui laisse un peu de distance, c'est une façon de lui montrer qu'on lui reconnaît le droit de nous guider. Si on marche à côté de lui ou devant lui, c'est peut-être plus lui qui est en train de diriger notre vie. Et toujours dans ce souci de respect, de sainteté devant Dieu, Josué dit au verset 5, « Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel accomplira des prodiges au milieu de vous. » Être sanctifié.
To be sanctified.
C'est ça que cela veut dire. Ça veut être dit être mis à part pour Dieu.
This is what it's expressing. It means to be set apart for God.
C'est le mot kadosh ou kadesh en hébreu.
In Hebrew it's the word kadosh ou kadesh.
Qui veut dire que Dieu est Dieu et nous ne sommes pas Dieu. Et nous devons, nous aussi, nous l'avons chanté tout à l'heure, sainteté, sainteté, voici ce dont j'ai besoin, voici ce que tu demandes, Seigneur. Pour les Hébreux, se sanctifier,
for the Hebrews, to be sanctified,
on lit dans l'Exode
we read in the book of Exodus,
qu'il devait se baigner tout le corps,
they needed to wash their whole bodies,
laver leurs vêtements,
wash their clothing,
et s'abstenir de relations sexuelles.
And abstain from sexual relations.
Alors on ne sait pas si tout le peuple a dû nettoyer leurs vêtements dans les eaux boueuses du Jourdain ou pas. Mais c'est aussi se mettre en présence de Dieu. Et si on ne se sanctifie pas, si on n'est pas purifié devant Dieu, le verset 5 pourrait être interprété pour dire qu'on ne va pas voir Dieu à l'œuvre. Dieu veut faire des prodiges au milieu de nous. Mais est-ce que nous sommes prêts pour qu'il puisse nous utiliser? Est-ce qu'il est la première personne dans notre vie ou est-ce qu'il est sur la liste des 10 premiers seulement? Est-ce qu'il est notre priorité ou est-ce qu'il est une de nos 10 priorités principales? Un livre a été traduit de l'américain qui s'appelle « Ce Jésus que je ne connaissais pas ». C'est par un auteur américain qui s'appelle Philip Yancey. Et il parle d'une période de sa vie où il combattait la tentation sexuelle. Et en lisant des textes de François Mauriac, l'académicien français, ce romancier était aussi un chrétien engagé.
He was also a committed Christian.
Et Mauriac parlait de ses combats contre ce même genre de problème. Et il disait, je cite l'auteur, « Mauriac conclut que la discipline personnelle la discipline personnelle, le refoulement
to reject,
ou l'argumentation rationnelle, la raison
or to use, rational reasoning,
sont des armes inadéquates pour combattre l'impulsion vers l'impureté. Et il dit, finalement, il ne put trouver qu'une seule raison d'être pur. C'est celle que Jésus avance dans les Béatitudes. Matthieu 5:8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et Mauriac termine en disant, l'impureté nous sépare de Dieu. La vie spirituelle obéit à des lois aussi vérifiables que celles du monde physique. La pureté est la condition d'un plus haut amour, d'une possession qui l'emporte sur toutes les possessions, celle de Dieu. Car c'est de cela qu'il s'agit et rien de moins. Et donc, Philip Yancey dit qu'en fait, en gardant de l'impureté dans mon cœur, je limite ma propre intimité avec Dieu. Je me fais du mal à moi. Ceux qui ont le cœur pur sont véritablement bénis car ils verront Dieu. C'est aussi simple que cela. Alors, comment faire? Est-ce que... Non, ce n'est pas les résolutions. C'est pas la discipline personnelle. Ce n'est pas l'argumentation rationnelle. Non, c'est de laisser libre cours à l'Esprit Saint. De savoir que si je résiste, je me fais du mal. Dans Hébreux 10:10, il est rappelé que Jésus est venu pour faire la volonté de Dieu.
We are reminded that Jesus came to do the will of God.
Et verset 10, et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Donc, nous ne nous sanctifions pas, nous sommes sanctifiés par le sacrifice de Jésus-Christ. Cette consécration, c'est quelque chose que nous devons vivre au quotidien. Et c'est la puissance du Saint-Esprit qui doit être plus grande que, qui est plus grande que celle de nos péchés. Je vous ai raconté l'anecdote où le grand évangéliste Moody demandait à son audience comment est-ce qu'il pouvait enlever l'air d'une carafe vide. Et les gens disaient, ben, il suffit de mettre une pompe à vide. Et faire marcher la machine à fond. Et Moody disait, non, si on fait ça, la pression atmosphérique va casser le vase. Finalement, Moody a pris une carafe d'eau, il a rempli la carafe vide. Et de la même façon, c'est pas en chassant l'impureté, mais c'est en remplissant notre esprit avec des choses de l'Esprit Saint. Que nous allons déplacer le mauvais air Philippiens 4:8 au reste frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Le terrain de nos pensées. C'est là que la bataille est gagnée ou perdue. Mais encore une fois, c'est en fixant nos yeux sur Jésus qu'on peut espérer des victoires. Et la prière la mieux connue dit: ne nous soumets pas à la tentation. Combien de fois est-ce que vous priez cette prière dans la journée? Ou cette chose? Et c'est vrai que lorsque vous demandez au Seigneur de vous aider de la sorte, il va être là. Et ce passage du Jourdain, c'est un passage de la vie qui est mené par l'ego, par nous-mêmes, par soi, par le soi. À une vie qui est menée par Jésus, une vie menée par l'Esprit. On peut même considérer que le passage de la mer Rouge, c'est le baptême d'eau. Et que le passage du Jourdain, c'est le baptême de l'Esprit. Où nous avons une vie qui est victorieuse par l'Esprit. Vous savez que l'Esprit est en nous dès que nous venons à Christ. Il était d'abord autour de nous avant que nous ne le connaissions. Il nous convainc de justice, de péché de justice et de jugement. Et nous sommes sauvés, c'est pas une question, mais est-ce que nous avons la puissance sur notre vie pour être des témoins fructueux? Acte 1, 8.
In Acts 1, 8.
Les disciples avaient déjà reçu l'Esprit Saint.
The disciples had already received the Holy Spirit.
Et Jésus leur dit, Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint.
And Jesus tells them that John baptized with water, but in a few days they would be baptized in the Spirit.
Il leur dit, verset 8, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Jusque-là, ils se cachaient. Mais là, ils ont franchi leur Jourdain. Ils deviennent des témoins puissants qui peuvent prendre possession du terrain. Alors, peu importe le terme, que ce soit baptême de l'Esprit, est-ce que c'est être rempli de l'Esprit? Paul nous exhorte à être continuellement en train d'être rempli de l'Esprit Saint.
Paul exhorte us to be continually being filled by the Holy Spirit.
Ce qui compte, ce n'est pas le terme, c'est la réalité de la chose.
The terminology is not important. What matters is the reality.
La chair a des désirs contraires à l'Esprit, l'Esprit en a de contraires à la chair, ils sont opposés l'un à l'autre afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Galates 5, 17. La vie par l'Esprit, selon l'Esprit Saint.
Life through the Spirit, according to the Holy Spirit.
Est-ce que vous avez soif de ça?
Are you thirsty for this?
Comment la recevoir?
How do we receive it?
Par la foi.
By faith.
En fixant les yeux sur Jésus.
By fixing our eyes on Jesus.
Sur l'arche qu'il représente. Josué est confirmé dans ses fonctions par Dieu, au verset 6 et 8.
In verses 6 through 8, Joshua is confirmed in his functions by God.
Les prêtres se mettent en position.
And the priests get into position.
Dieu demande à Josué de prendre 12 hommes. On verra au chapitre suivant quelle sera leur mission. Il leur fait cette promesse que dès qu'ils poseront le pied dans l'eau, elle s'arrêtera. Et encore une fois, c'est une promesse impossible que le Seigneur aime bien nous donner. Parce qu'en fait, si je mets le pied, il va être emporté, le torrent est trop fort, mais non, dès que je suis prêt à obéir le Seigneur, alors il répond à la promesse. Et le miracle se produit. Le peuple est sanctifié, ils ont la foi que Dieu va agir. Ils fixent les yeux sur lui, sur son arche. Et d'un seul coup, la crue s'arrête, l'eau s'arrête. C'est un grand miracle. Certains disent, oh, c'est pas un miracle. En fait, en 1920, il y a eu un éboulement de terrain qui a bloqué le Jourdain.
Say, oh, no. 1920 there was a big slide that blocked and stopped the Jordan River.
En 1927, ça avait bloqué la rivière pendant 20 heures.
It was 1927 and it stopped the river for 20 hours.
Alors il est vrai que Dieu a pu utiliser un phénomène naturel.
And it's true, God could have used a natural phenomenon.
Mais à ce moment-là, le miracle, c'est de faire coïncider dans le temps le passage des Israélites avec ce phénomène. L'arche est restée au milieu de la rivière pendant des heures. Jésus est avec nous dans l'épreuve. Sa grâce nous suffit. Jésus est celui qui doit nous guider, c'est celui qui ouvre la voie. Il y a un très beau passage dans le prophète Michée 2:13. C'est un de ces, entre guillemets, petits prophètes. Après Jonas.
After Jonah.
Et avant Nahum.
And before Nahum.
Et il parle du futur du peuple d'Israël. Comment Dieu va regrouper un reste d'Israël. Et il dit, celui qui détruit les murailles qui les retiennent prisonniers, celui qui fait la brèche, monte devant eux. Si vous avez des situations difficiles, des obstacles dans votre vie, des maladies, des revers de fortune, on dit.
Sickness, change in how things are going.
Fixez vos yeux sur Jésus.
Keep your eyes fixed on Jesus.
C'est lui qui fait la brèche.
He is the one who will break through.
Derrière lui, nous pouvons continuer à enlever les morceaux de briques.
And behind him, we can follow him and take bricks away.
Nous passons la porte et nous en sortons. Le roi passe devant eux. Amen. L'Éternel est à notre tête.
The Lord is at the head.
Jean disait, le bon berger marche devant les brebis.
And John tells us that the good shepherd walks before his sheep.
Elles le suivent parce qu'elles connaissent sa voix.
And they follow him because they know his voice.
Ce qui est merveilleux dans ce passage, c'est qu'en fait, ce qui compte, c'est pas tant la victoire. Que de désirer celui qui remporte la victoire, qui a remporté la victoire. Est-ce que vous avez soif d'une vie plus profonde avec Jésus? Cela ne dépend que de vous et de moi. Est-ce que nous allons prendre du terrain ou nous contenter de rester de l'autre côté du Jourdain? Dieu ne va pas nous pousser.
God will not push us.
Le choix nous appartient.
The choice is ours.
C'est mon choix.
It's my choice.
Prions. Seigneur Jésus, merci de ce que tu es notre Josué. Tu veux nous emmener dans cette terre promise de la vie selon l'Esprit, Seigneur. Cette vie où nous tournons les yeux vers toi, où nous te faisons confiance, Seigneur, où nous marchons par la foi. Seigneur, c'est le désir de mon cœur. Je sais que c'est le désir de beaucoup ici présents. Aide-nous, Seigneur, à nous vider de nous-mêmes, à nous remplir de ta parole, à nous sanctifier, en laissant l'Esprit Saint remplir nos pensées, en agissant de façon sensée aussi, en ne faisant pas de provision pour notre vieille nature. Seigneur, agis en nous, Seigneur. Continue à nous remplir continuellement, Seigneur, de ton Esprit Saint. Sois exalté dans nos vies, dans cette Église, dans les autres églises de la ville qui t'adorent en esprit et en vérité, dans cette ville, dans ce pays. Amen. Amen. N'oubliez pas de regarder derrière pour vous inscrire pour dimanche prochain. Si vous avez besoin de dossiers de convocation, venez me voir, j'en ai plusieurs ici. Et rendez-vous à 5 heures aussi chez Mike et Becky pour ceux qui veulent aller à Cannes. Que le Seigneur vous bénisse. Et ne partez pas sans dire bonjour à ceux qui ne sont ici, si vous êtes ici pour la première fois. Que le Seigneur vous bénisse et vous donne une semaine riche à le suivre. Amen.